Le chemin des transitions. Denis et.
Bonjour à toutes et à tous. La clé des ondes, la radio qui se mouille pour qu'il fasse beau, et Dynamo, l'association qui amène l'eau là où elle n'est pas, vous accompagne sur le chemin des transitions. L'émission qui chaque semaine vous propose de marcher dans les pas d'un guide éclairé vers un monde meilleur. Alors aujourd'hui, promenade champêtre autour d'étranges piscines peu engageantes et perdues au milieu des champs. Nous recevons Adeline de Bassine Non Merci. Qui n'a pas entendu parler de Sainte-Soline et des mondialement célèbres méga-bassines, du tapage médiatique qui a entouré les manifestations contre leur construction et de l'incroyable déploiement de forces de l'ordre qui a entouré l'événement? Beaucoup de bruit pour un simple trou d'eau? Encore un coup des médias pour faire le buzz? Pas si sûr. Presque 20 hectares et 720 000 mètres cubes d'eau, soit environ 300 piscines olympiques. Voilà des dimensions qui interrogent. D'autant plus que ces réserves de substitution d'irrigation, pour les appeler par leur dénomination officielle, nécessitent des kilomètres de tuyaux pour pomper l'eau dans des nappes phréatiques quand ces dernières sont supposées être largement remplies. Alors, outre les travaux qui sont financés pour la plupart par les factures d'eau de tous, mais l'eau recueillie ne l'est qu'au profit d'une minorité de grandes exploitations déjà rentables et largement subventionnées. Ubuesque. Les bénéficiaires privilégiés de ces financements publics et de l'eau, en principe propriété de tous, sont censés prendre des mesures de compensation écologique, telles que plantation de haies, la conversion de terres à l'agriculture biologique ou encore la réduction de l'utilisation des pesticides. Très bien. Sauf que personne ne vérifie et que quasiment rien n'est fait en ce sens. Et la science dans tout ça? Qu'en dit-elle? Un grand flou est entretenu autour des conséquences de l'usage de ces fameuses réserves de substitution. Mais pour l'instant, aucun scientifique ne s'est enthousiasmé pour les progrès potentiels de gestion ou d'économie d'eau. Ce serait même plutôt le contraire. Difficile de comprendre ce qui pousse les autorités à soutenir si activement ce type de projet.
L'association Dynamo vous accompagne sur le chemin des transitions.
Bonjour Adeline.
Bonjour.
Alors vous venez ici nous détailler un petit peu les raisons de s'opposer à ces bassines. Mais ce que je vous remarque, c'est que les autorités soutiennent activement, et même violemment parfois, l'installation des méga-bassines. Alors, quels sont les arguments qu'ils mettent en avant pour justifier de tels projets?
Alors aujourd'hui, les arguments mis en avant par le gouvernement ne sont pas très clairs, en fait. Si ce n'est qu'ils roulent pour la FNSEA, le syndicat majoritaire de l'agro-industrie, puisqu'aujourd'hui, ce qu'ils mettent en avant, c'est qu'il faut de l'eau pour l'agriculture. Là où on n'est pas d'accord, parce qu'en fait, l'agriculture, il y a très peu d'irrigation et l'irrigation souvent va à l'agro-industrie, comme le cas des gens qui vont être accordés aux bassines. Donc l'argument vraiment de l'État, c'est que ce sont des projets pour l'agriculture. Les agriculteurs ont besoin d'eau, on doit aller sur ça.
Oui, et les Français soutiennent les agriculteurs. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le type d'exploitation qui ont besoin d'autant d'eau, c'est souvent du maïs, mais pas le maïs de géant vert qu'on trouve dans nos petites boîtes, et que je trouve épouvantable d'ailleurs. Mmh. Mais c'est des maïs qui servent à nourrir du bétail, c'est ça?
C'est ça. Alors, c'est du maïs qui sert à nourrir du bétail. 90% du maïs produit dans Poitou-Charentes part à l'exportation. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un troisième silo qui a été construit au port de La Rochelle, qui est un gros port d'exportation céréalière. Donc on se retrouve aussi sur une dynamique un peu à l'envers, puisqu'on parle de souveraineté alimentaire, de revenir sur des modes de consommation locale. Et en fait, ce qui est produit avec l'eau des nappes phréatiques, donc l'eau des bassines, c'est pour partir à l'exportation. Et par contre, des maraîchers du coin vont avoir du mal, eux, à avoir de l'eau.
Oui, parce que alors, le risque de manque d'eau est patent du fait de l'installation de bassines ou pas? Parce que ça, on ne sait pas trop, parce qu'on nous dit que on remplit les bassines quand les nappes sont pleines pour qu'elles puissent se remplir à nouveau, au lieu que l'eau excédentaire qui y aura éventuellement dans les nappes puisse ruisselle jusqu'à la mer. C'est vrai, ça tient debout? Est-ce qu'il y a des explications scientifiques là-dessus qui sont un peu cohérentes ou...
Non, pas du tout. Déjà, le cycle de l'eau, on le voit en CE2 à l'école primaire. Et on voit très bien que, oui, en effet, l'eau va à la mer, mais elle vend avant, elle passe des nappes phréatiques aux rivières qui nourrit tout le milieu, les forêts, pour nous, le marais Poitevin, hein, qui est quand même une zone humide, et elle permet d'alimenter le milieu. Donc, si on la pompe en amont dans la nappe phréatique, elle ne va jamais arriver sur la rivière et elle ne pourra jamais nourrir le milieu. Donc, déjà, là, on a un problème. Après, le deuxième problème, c'est que ces bassines, ce n'est pas nouveau, en fait, le problème d'eau et d'irrigation dans le marais Poitevin. En fait, les bassines, c'est la dernière solution qu'a proposée aujourd'hui l'agro-industrie. Mais avant ça, les agriculteurs pompaient directement dans des forages qui pompaient directement dans la rivière ou dans la nappe. comme ces forages étaient à sec, de plus en plus en fait, eh bien, il a fallu trouver une autre solution. Donc l'autre solution, c'est les bassines, c'est-à-dire de pomper en amont pendant l'hiver et de stocker l'eau pour l'été. Donc on est déjà sur ça. Et par-dessus, on le voit, le marais Poitevin, c'est une zone humide, donc avec le marais mouillé, et autour, les prairies humides, qui permettent de faire éponge l'hiver, de garder l'eau et de la relâcher petit à petit au printemps pour nourrir le milieu. L'agro-industrie, les agriculteurs qui font ces productions, ont asséché toutes les prairies humides pour mettre des céréales. Et donc, c'est aussi ça le problème. C'est qu'en asséchant ces prairies humides, maintenant, ils ont besoin d'eau pour réarroser le maïs qui demande beaucoup d'eau en plein été ou aujourd'hui, en France, dans les climats tempérés, l'eau en plein été, ce n'est pas ce qu'on a de le plus. Ce n'est pas une culture vraiment adaptée à notre climat.
Oui, d'accord. Donc, ça n'intervient, donc, on l'a dit au départ, en rien dans le phénomène de souveraineté alimentaire. Parce que ce ne sont pas des paysans. Hein, ces agriculteurs-là, ce sont des industriels. Hein.
Alors là, aujourd'hui, oui, la plupart des gens sont nourrissent l'agro-industrie, en fait. Ce sont des céréales qui vont partir. Ce ne sont pas de l'agriculture locale, comme on revendique avec la Confédération paysanne. C'est-à-dire des gens qui pourraient nous permettre de nous nourrir nous, maintenant.
Oui, donc, parce qu'on parle souvent de ce phénomène qu'on n'est pas capable de produire pour nourrir et qu'on est obligé d'importer. Mais ça, c'est juste de l'export pour nourrir les vaches brésiliennes.
Exactement.
Voilà, donc ça n'avance pas sur le phénomène de souveraineté alimentaire. Et donc, il y a en plus une destruction patente de l'équilibre hydrologique naturel sur les régions.
Oui, pour moi, les bassines, elles sont à trois problèmes différents. Il y a, donc, on l'a dit, ça nourrit l'agro-industrie et pas du tout l'agriculture paysanne locale. Ça détruit les milieux et on met en danger le marais Poitevin, mais dans tous les autres endroits, il y a des bassines dans le Puy-de-Dôme, dans le Berry, c'est pareil, ça met en danger le milieu. Et le troisième, c'est que, comme tu l'as dit au début, en fait, on paye notre facture d'eau, c'est géré par les agences de l'eau, et aujourd'hui, cette eau publique est accaparée par une minorité. Et donc, nous, en tant que citoyens, on n'a plus la main, on n'a plus le mot à dire sur la gestion de l'eau, puisqu'elle est prise dès le début dans les nappes phréatiques, avant même qu'elle arrive dans les rivières.
Bon, allez, on va ouvrir le volet social après le temps d'une chanson.
There's a yearning and a feeling in the water, so I'm feeling and I'm busy in the water, so much crying, so much fighting over water, and I'm raining down on me all the time, all the time. You are the reason, you're the gift that keeps on giving.
all through the seasons, from morning dew to the ocean. So we carry on while the river keeps on flowing, surrender to its motion. Holy Jahweh, spirit of cleansing. Holy Jahweh, is everlasting. Holy Jahweh, spirit of cleansing. Holy Jahweh is everlasting. There's a healing and a feeling in the water. So a feeling and a feeling in the water. So much striking, so much fighting over water. While it's raining down on me all the time, all the time.
C'était Jason Mist, Water.
Environnement, économie, finance, citoyenneté, solidarité, les transitions vers le monde de demain sont multiples. Chaque semaine, notre invité nous accompagne sur son chemin des transitions.
Oui, le chemin des transitions, c'est sur la clé des ondes et nous sommes en compagnie de Adeline, que j'ai de préférer, Adeline Nobassaran, hein, puisqu'elle vient nous parler de bassines non merci, donc les fameuses bassines, méga bassines qui sont en train de, non pas de fleurir, mais de s'installer un peu partout en France, avec des conséquences terribles sur le cycle de l'eau, sur l'environnement, peut-être aussi sur la biodiversité, quoique là, le mal est déjà bien fait en général par la monoculture. Qu'ajouter donc, et on a aussi vu qu'il y a une incohérence totale au niveau du financement, puisque donc les méga-bassines, grosso modo, sont pour les deux tiers, voire les trois quarts, financées par les pouvoirs publics, non, c'est-à-dire par l'argent de l'impôt de tous les citoyens. Et l'eau des nappes phréatiques, qui théoriquement devrait être à tout le monde, est alors réservée à une minorité, ceux qui ont financé les bassines. C'est comme ça que ça se passe.
Oui, exactement. En fait, on se retrouve à un double accaparement, parce que c'est à la fois l'argent des citoyens qui est utilisé pour des biens privés, en fait, parce que là, le maïs qui va être produit grâce à ces bassines et les autres cultures, c'est pour un enrichissement personnel. Et puis, en plus, on prend de l'eau qui est un bien commun, qui est celui des rivières, des nappes phréatiques, pour de l'enrichissement. Donc, on est vraiment sur un double accaparement. Si on avait
Si j'avais pu rebondir, faire un peu l'avocat du diable. En plus, l'enrichissement, bah, c'est pas terrible, parce que finalement, s'ils n'ont pas les subventions pour soutenir leurs exploitations, c'est pas évident qu'ils soient rentables, alors.
Ah ouais, c'est un modèle qui est... déjà, on marche sur la tête, on a l'impression d'être dans les shaddocks, en fait, parce que ces gens sont dépendants de l'agro-industrie, doivent vendre, doivent exporter, sont dans un système où, plus pour être rentable, il faut en faire de plus en plus, pour en faire de plus en plus, il faut investir de plus en plus, donc prendre des prêts, et puis toucher des subventions. Et donc, c'est là où, voilà, on le voit, la dernière politique agricole commune au niveau de l'Europe, elle va aider de plus en plus les plus grands, mais les plus petits, qui eux sont plutôt, en général, plus on est petit, plus on arrive à être respectueux du milieu, être en lien avec le local, eux seront de moins en moins aidés.
Oui, alors que bon, on a des cas, j'imagine, d'exploitation agricole qui sont rentables de par leur gigantisme, ou pas?
Ah oui, plus ils sont gros, plus ils vont être rentables. Alors moins il y aura d'employés dedans, plus ça sera des machines, et moins ça sera respectueux de l'environnement. Et c'est ça aussi le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette agriculture au service de l'agro-industrie, elle non seulement produit des choses qu'on ne voudrait pas manger, qui sont pour l'agro-industrie, mais en plus, elle détruit le milieu sur lequel elle est. Les champs dans lesquels ces agriculteurs au service de l'agro-industrie travaillent, c'est des champs où il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus de vers de terre, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de haies, donc c'est des champs de sable.
Oui, alors, puisque j'entends parler de haies à l'instant, donc il est question normalement que la contrepartie de l'installation de méga-bassines, ce sont des actes forts en matière de la diversité climatique, la diversité biologique, plantation de haies, conversion de terres à l'agriculture biologique, réduction d'utilisation des pesticides, mais a priori, personne ne vérifie si les choses sont mises en place.
Non, puis en effet, c'est des contreparties qui sont minimes par rapport à l'impact négatif qu'il y aura sur le milieu. S'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de milieu. Et donc, ouais. On peut mettre une haie, hein, mais s'il n'y a rien autour, ça ne servira à rien. Et aujourd'hui, on le voit, on est plutôt dans une politique à arracher les haies, à essayer de faire les terrains les plus longs possibles pour passer les plus grosses machines, plutôt que de remettre des haies qui permettraient aux oiseaux de revenir nicher, aux animaux de revenir, et à faire de l'ombre, et qui fait que l'ombre pourrait aussi garder beaucoup mieux l'eau et les sols humides.
Oui, ça, c'est l'histoire de... Mais ce qu'il faut bien essayer de faire comprendre aux gens, c'est que finalement, ces grands champs qu'on peut voir, qui sont à perte de vue, n'ont plus rien à voir avec la nature. Hein. La terre qu'il y a dedans est morte. C'est pour ça qu'ils n'ont pas d'autre alternative, finalement, que de mettre des tas d'intrants chimiques pour pouvoir faire pousser. Parce que c'est une terre qui est morte, qui n'a plus aucune valeur. Hein.
C'est ça. C'est une terre qui devient stérile, en fait. À force, justement, d'y mettre des pesticides, d'y tuer tout ce qui pourrait être lié à la vie, les vers de terre, à force d'avoir utilisé, par exemple, des broyeurs à cailloux qui broient les cailloux, donc on revient sur des terres très, très, très fines, et bien, du coup, l'eau ne reste pas. D'enlever les haies et les arbres au milieu qui permettaient de garder l'humidité du terrain, on en vient à des sols qui sont complètement stériles. Et donc, si on n'en met pas de l'engrais, ces sols, ils ne produisent rien. Et alors, donc on est dans un cercle, l'opposé du cercle vertueux, vraiment un cercle vicieux où plus on fait des grosses cultures dessus, plus le sol devient de moins en moins intéressant et plus il faut rajouter des choses chimiques.
Et donc il faudrait qu'il y ait une réglementation qui se mette en place pour qu'on puisse restituer un petit peu de nature dans ces espaces, mais il y a plutôt lieu de s'inquiéter par rapport à ce qui s'est passé en début d'année 2024, par rapport aux manifestations des agriculteurs et les mesures qui... soi-disant d'assouplissement qui ont été prises.
En effet, en fait, le gouvernement prend l'inverse, en fait, prend le chemin inverse, plein de dossiers, mais là, il prend le chemin inverse de l'écologie. Et donc, oui, c'est un travail de longue haleine, mais c'est possible. On a des agriculteurs, des paysans qui ont fait la marche arrière et qui remettent des petits étangs, qui remettent des arbres et qui voient vraiment la différence sur leur terrain, mais qui sont aussi sur la biodiversité, en fait, sur le retour des animaux, le retour des moineaux.
Oui, mais alors le problème, bon, pour ce qui est, on replante des haies, mais on en replante malheureusement moins qu'on en arrache. Et le vrai problème n'est-il pas la conversion de ces exploitations mirobolantes, mais complètement incohérentes, qui finalement oblige les agriculteurs à investir des sommes colossales pour une rentabilité ridicule, voire inexistante, et être toujours dépendant de plus d'intrants dans les sols et plus de subventions pour pouvoir survivre. C'est la transition, il faudrait qu'elle soit là. Que ces gens puissent faire marche arrière et arrêter de nourrir un système complètement aberrant où ils travaillent 60 heures par semaine, ils investissent des sommes colossales, ils sont endettés jusqu'aux yeux et au bout du compte, ils ne gagnent rien. Et en plus, ils coûtent cher à la société pour des produits qui sont toujours discutables.
En effet, en fait, c'est un peu on marche à l'envers. Et donc, on le voit, c'est possible de faire cette transition. C'est possible de revenir sur des modes d'agriculture qui permettent d'être respectueux de l'environnement. Mais pour ça, il faut aussi un coup de main de l'État. Il faut une politique qui favorise. Et aujourd'hui, on est plutôt dans une politique de tout argent, de la production au maximum, pour faire un maximum de bénéfices. Et parce qu'aujourd'hui, l'agriculture majoritaire, donc vraiment celle qu'on appelle conventionnelle, roule pour l'agro-industrie, roule pour les coopératives laitières, roule pour les grosses coopératives, en fait.
Oui, et donc pour des lobbies financiers qui ont les moyens de faire plier le gouvernement.
Exactement. Bayer Monsanto, aujourd'hui, n'a aucun intérêt à limiter les pesticides, vu que c'est lui qui vend les pesticides.
Oui, et c'est une de ses filiales qui achète la production.
Exactement.
Donc, c'est un circuit fermé qui est maintenu, mais on nous maintient dans une illusion donc sur les... Alors, il y a évidemment des gens qui sont là dans des situations dramatiques par rapport à leur endettement, leur situation. Ils travaillent comme des dingues, ils ne gagnent rien, ils sont toujours obligés de s'endetter d'une année sur l'autre parce que sinon, ils ne passent pas l'année. Donc là, ils se retrouvent à la rue. C'est...
En fait, on a aujourd'hui des agriculteurs et ceux qui étaient dans la rue il y a encore quelques semaines, qui sont vraiment en détresse, qui sont vraiment, comme tu dis, dépendants de prêts et qui sont obligés de réinvestir par-dessus et qui sont vraiment de plus en plus dépendants. Sauf qu'en fait, ces personnes-là se retrouvent dans un syndicat qui est la FNSEA, qui est dirigé par des gros
ministres, par
l'agro-industrie, qui, eux, ne se gênent pas. Et donc, des gens, y a plein de gens qui vivent de l'agriculture aujourd'hui, mais ce n'est pas les agriculteurs. Ce sont les supermarchés derrière, l'agro-industrie et tout ça. Et aujourd'hui, c'est les agriculteurs qui produisent, mais qui n'en vivent plus de leur agriculture.
Bah, sauf ceux qui tournent sur des circuits courts, est-ce que ceux-là, ils arrivent à survivre ou pas? Parce qu'il y a quand même beaucoup de petites exploitations qui, malheureusement aussi, mettent la clé sous la porte.
Oui, en effet, c'est pas si facile que ça.
Parce qu'en plus, ils ne sont pas aidés.
Parce que bah, justement, il faut être multicarte et pouvoir à la fois vendre au local, à la fois produire. Et on le voit aujourd'hui, si on prend la question de l'eau, les plus petits maraîchers dans les Deux-Sèvres n'ont pas accès aux bassines. Il faut avoir un certain nombre d'hectares, il faut être assez gros pour avoir accès aux bassines. Donc en plus, on les met en difficulté.
C'est terrible. Le temps d'une chanson, on prépare un plan d'action, hein, parce qu'on ne va pas laisser ça comme ça. Hola, Kokoro nous a chanté We Give Thanks.
Le chemin des transitions. Denis et.
Oui, bien évidemment, vous écoutez le chemin des transitions, vous êtes sur la clé des ondes. Nous sommes en présence d'Anne-Line, qui vient ici nous parler de bassines non merci. Alors, bien évidemment, vous l'aurez compris, en tout cas je l'espère, il s'agit des méga-bassines. Bon, on a parlé de Sainte-Soline, où il y a eu tant de massacres de l'environnement avec le creusement des bassines. Hein. Attention, c'est des piscines hermétiques. Hein. Ça n'a rien à voir avec une retenue collinaire ou un simple barrage. Hein. C'est vraiment une verrue dans la nature. Et puis, bon, tout le massacre humain qu'il y a eu aussi autour de cette manifestation. Parce qu'il s'agit quand même de quelque chose de... un tournant. Hein. Malheureusement pris depuis longtemps, hein, puisque, comme on le disait, la FNSEA est au pouvoir de l'agriculture en France depuis environ 70 ans. Et c'est bien eux, même s'ils arrivent toujours à tourner les choses à leur avantage, qui nous ont amenés dans cette situation et qui ont mis des centaines, peut-être des milliers d'agriculteurs dans une des situations ubuesques où ces gens-là travaillent à n'en plus finir, sont endettés jusqu'au cou, voire jusqu'aux yeux, et ne gagnent pas un centime. Et ils ont d'énormes difficultés à faire marche arrière. Hein, parce que quand on a un tracteur de 50 tonnes qui vaut des centaines de milliers d'euros, eh ben c'est bien beau, mais il faut avoir les terres, et etc. Ils sont dans une course folle. Ils tirent le diable par la queue toute l'année et on ne sait pas, et rien n'est fait pour qu'on puisse convertir. Le fait d'augmenter les aides ou de diminuer les règles qui régissent l'utilisation de pesticides va rien changer, sinon maintenir le système. Mais en plus, évidemment, en contrepartie, réduire les aides aux petites exploitations qui sont souvent plus vertueuses, en tout cas en matière d'environnement et de biodiversité. Allez, on ne peut pas laisser faire ça. Donc, Adeline, toutes les pistes pour lutter contre ce phénomène aberrant qui est notre quotidien, hein, parce que les agriculteurs sont aussi nos fourvoyeurs de nourriture, enfin en partie, hein, parce que là, c'est de l'export en l'occurrence là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on fait ?
Eh bien, il y a plein de choses à faire, et déjà, on le voit, il y a déjà du succès, parce qu'aujourd'hui, la bassine de Sainte-Soline n'est toujours pas terminée, elle a plus d'un an de retard, il y a des bassines qui ont pris du retard, grâce à quoi ? Eh bien, aux mobilisations des citoyens. Et donc, on peut rejoindre des collectifs de bassines non-merci. Aujourd'hui, des collectifs de bassines non-merci, il y en a dans les Deux-Sèvres, dans le Poitou-Charentes, il y a même une antenne à Bordeaux, il y en a dans le Berry, dans le Gard, dans le Puy-de-Dôme.
Il faut aller sur
bassines non-merci, le site. Vous pouvez,
Il y aura le lien, bien sûr,
sur le site. Il y aura le lien, il y aura les contacts de tous les bassines non-merci qui se sont créés. On peut aussi rejoindre les amis de la Confédération Paysanne pour aller soutenir directement la Confédération Paysanne, qui est un syndicat, justement, de paysans qui essaie de mettre en place les pratiques les plus vertueuses vis-à-vis du milieu local et vis-à-vis de tout ce qu'on va avoir dans notre assiette.
Oui, attention, il ne faut pas confondre agriculteurs et paysans. Hein. Beaucoup de ces agriculteurs, notamment ceux qui profitent des méga-bassines, souvent ne sont pas des paysans, hein. Ce sont des agriculteurs. Donc, ce sont des gens qui travaillent pour l'agro-industrie. Hein.
C'est là où il faut vraiment faire la différence. On soutient vraiment l'agriculture paysanne et c'est là où la Confédération paysanne est un des modèles que nous, Bassines non-merci, on soutient. On peut aussi aller sur les soulèvements de la terre. Il y a des comités locaux partout en France. Et en fait, ce qui est important, c'est que chaque personne dans son territoire se renseigne sur qu'est-ce qui se passe dans son territoire, qui gère l'eau, est-ce qu'il y a des projets de bassines, est-ce qu'il y a d'autres projets de non-sens comme des fermes de saumon ou comme... Il y a plein de choses. Et se renseigne et aller dans les collectifs locaux ou créer des collectifs locaux pour justement remettre le citoyen au cœur des actions et au cœur du respect du milieu. Et c'est là où on pousse les gens à s'intéresser à ce qui se passe autour de chez eux.
D'accord. Donc, on y va à travers Bassines non merci. D'autres, les soulèvements de la terre.
Les soulèvements de la terre. Il y a aussi les amis de la Confédération Paysanne qui permet aussi de soutenir justement la Confédération Paysanne, de faire des sensibilisations, d'alerter. Et puis tous les collectifs après, on peut rejoindre par exemple les collectifs locaux de Greenpeace ou des syndicats comme la CGT Solidaire qui soutiennent justement le mouvement de Bassines non merci.
Eh bien, on va écrire cette petite liste et on la mettra sur le site. Mais le chemin des transitions, c'est fini pour aujourd'hui, Adeline. Merci beaucoup. En recevant Adeline de Bassines non merci, alias No Basaran, ça j'adore. Le chemin des transitions, c'est une émission qui est produite par Dynamo EAU à la fin. Toutes les infos, bien sûr, seront sur le site avant la fin de la semaine. Le chemin des transitions, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous nous retrouverez bien sûr sur laclédesondes.fr à n'importe quel jour et n'importe quelle heure et partout sur la planète. Merci Tom pour ses exploits à la table de mixage, Maxime pour son carnet d'adresses, Xavier notre grand Manitou et Baptiste notre journaliste couteau suisse. Allez, place maintenant à Point Chaud pour l'actualité sociale, puis Climat de lutte comme son nom l'indique. Place à la musique grecque, puis du jazz. Allez, soyez sympas avec vous, soignez-vous, écoutez La Clé des Ondes. Ciao, bye bye, et à la semaine prochaine.